Cet article a été légèrement modifié afin d'optimiser votre expérience d'écoute. Bien que nous ayons inclus une brève description des figures et des tableaux, toutes les références, citations, parenthèses, annexes, notes de bas de page et notes de fin ont été supprimées. Pour obtenir les tableaux, figures, annexes, références complètes et citations de cet article, veuillez consulter la version PDF sur le site web de la Revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie, www.cjlt.ca. Les droits d'auteur de cet article appartiennent aux auteurs et sont publiés librement sous licence Creative Commons Attribution 4.0 internationale. Le titre de cet article est « Évaluation comparative des formations en ligne relativement à la perception des étudiants vietnamiens aux études supérieures ».
Benchmarking online training in higher education, Vietnamese students' perceptions.
Les auteurs sont Thanh Ba Wan, Université de Hanoi, Vietnam. Nguyen Tandai, Université de Strasbourg, LISEC, France. Nguyen Hu Binh, Université de langue étrangère, Université de Da Nang, Vietnam. Ngo Baun, Université de Canto, Vietnam. Vo Viet Minh Na, Université de Hue, Vietnam. Nguyen Thien Dao, Université Nguyen Thach Thanh, Vietnam. Dinh Thiai, Université de Hanoi, Vietnam. Et Vu Thien Da, Université de Hanoi, Vietnam. Résumé. Le Vietnam est considéré comme étant avancé dans l'adoption et l'usage des technologies de l'information et de la communication en éducation, suivant les critères définis par l'UNESCO. Cependant, la plupart des établissements d'enseignement supérieur vietnamiens ne se limitent qu'à investir dans du matériel et des équipements technologiques pour encourager les initiatives individuelles d'enseignement en ligne chez les enseignants universitaires. Sans disposer de véritables politiques institutionnelles de formation en ligne ni de toutes les dimensions nécessaires à l'intégration systématique des TIC, cela les empêche d'atteindre un niveau d'efficacité suffisant et une cohérence d'ensemble. Cet article vise à présenter les résultats de l'étude des modèles de développement du cyberapprentissage dans les établissements d'enseignement supérieur du monde entier, en particulier celui de l'Association européenne des universités d'enseignement à distance. En vue de construire un modèle d'évaluation comparative de la politique institutionnelle de l'apprentissage en ligne en fonction de la perception des étudiants. Ce modèle a fait l'objet d'une enquête auprès de 460 étudiants de 4 établissements d'enseignement supérieur vietnamiens, dont les résultats d'analyse factorielle permettent de valider une version adaptée de l'enquête au contexte local. Mots-clés, Association européenne des universités d'enseignement à distance, enseignement supérieur, évaluation comparative, formation en ligne, perception des étudiants, Vietnam.
Abstract. Vietnam is ranked at the advanced stages in the adoption and use of information and communication technologies in education, according to the criteria defined by UNESCO. However, most Vietnamese higher education institutions are limited to investing in technological equipment and materials to encourage individual initiatives in online teaching among lecturers, without having a comprehensive institutional policy for online training, including all the dimensions necessary for the systemic integration of ICTs. This prevents them from achieving a sufficient level of efficiency and overall coherence. This article is a study of models for the overall development of e-learning in higher education institutions, in particular that of the European Association of Distance Teaching Universities, for building a benchmarking model for e learning institutional policy under students' perception. This model was subject to a survey involving 460 students from 4 Vietnamese higher education institutions, with the result of factor analysis validating an adapted version that fits to the local context. Keywords: benchmarking, European Association of Distance Teaching Universities, higher education, online training, students' perception, Vietnam.
Introduction. Depuis la fin du XX siècle, l'éducation a connu des changements majeurs à l'échelle mondiale grâce au développement des technologies de l'information et de la communication, en particulier l'Internet et le Web, qui permettent l'utilisation de plateformes intégrant les outils de travail individuels et renforcent le travail interactif et collaboratif en ligne. Cela permet de développer différentes méthodes pédagogiques constructivistes à plusieurs échelles. Au Vietnam, afin de maintenir et de renforcer les résultats initiaux encourageants obtenus depuis la période de rénovation amorcée en 1986, l'État a adopté des politiques fortes pour améliorer la qualité de l'éducation dès la première décennie du XXe siècle, dont le développement de l'utilisation des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage figurait parmi les solutions prioritaires. Grâce à ces initiatives, Le Vietnam a non seulement enregistré l'une des croissances les plus rapides au monde en matière d'infrastructure TIC pendant plusieurs années consécutives, mais il figure en bonne position relativement à l'intégration des TIC dans l'éducation. Selon les critères de l'UNESCO, ces acquis ont permis au ministère de l'Éducation et de la Formation vietnamien de promulguer assez tôt certains textes réglementaires régulant la mise en œuvre de la formation en ligne, en particulier la circulaire numéro 12/2016/TT. DGDDT du 22 avril 2016 définissant l'application des technologies de l'information dans la gestion et l'organisation de la formation en ligne, et la circulaire numéro 10/2017/TT. DGDDT du 28 avril 2017 établissant le règlement de la formation à distance de niveau universitaire. Bien que ces réglementations demeurent lacunaires, elles ont posé des bases nécessaires pour permettre à l'ensemble du système éducatif vietnamien de faire face efficacement à la pandémie de COVID-19 durant les années 2020-2021. Cependant, en ce qui a trait à la perception de l'efficacité des mesures d'enseignement à distance au cours de cette période, majoritairement mises en œuvre via des outils de vidéoconférence, ont été détectées des divergences considérables entre différents acteurs concernés, notamment enseignants et étudiants. Les enseignants ont tendance à surévaluer leurs performances et à sous-estimer leurs propres faiblesses par rapport à la perception réelle des étudiants. Durant cette période, le MEF a continué de publier de nouveaux textes officiels afin d'améliorer progressivement le cadre juridique de la FEL, en particulier la circulaire numéro 39/2020/TT. DGDT du 9 octobre 2020 définissant le standard d'évaluation de la qualité des programmes de formation à distance de niveau universitaire. Cependant, dans l'ensemble, ces nouvelles réglementations relatives aux activités de l'école en réponse à la pandémie COVID-19 n'ont pas eu d'influence significative, car elles ne proposaient pas de solution fondamentale pour surmonter les problèmes techniques rencontrés lors des cours en ligne ouverts à tous, ni pour créer des espaces d'apprentissage privés et réduire les nuisances sonores. Bien que l'enseignement en ligne par vidéoconférence ait largement été utilisé comme modalité principale, l'utilité et l'utilisabilité de l'outil n'ont pas eu d'influence sur le comportement relativement à l'utilisation ou à l'usage réel chez les étudiants. Dans ce contexte, nous avons proposé un projet de recherche scientifique et technologique de niveau ministériel intitulé « Formation en ligne de niveau universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur vietnamien. État des lieux et solutions », qui a été déployé de 2022 à 2024. Pendant la mise en place du projet, le MEF a successivement promulgué d'autres textes réglementaires, dont la circulaire numéro 28/2023/TT-BGDDT du 28 décembre 2023 définissant le règlement de la formation à distance de niveau universitaire, qui remplace la circulaire 10/2017 et la circulaire numéro 30/2023/TT-BGDDT du 29 décembre 2023 définissant l'application des technologies de l'information dans la formation en ligne de niveau universitaire, qui se substitue à la circulaire 10/2016. Cependant, il faudra du temps avant de pouvoir évaluer les effets de ces mesures sur les problèmes existants. La principale raison réside probablement dans le fait que les établissements d'enseignement supérieur vietnamiens ne disposent pas encore de véritables stratégies de développement de l'apprentissage en ligne, qui prendraient en compte toutes les dimensions indispensables à l'intégration des TIC dans l'organisation institutionnelle. La plupart se limitent à l'investissement dans les infrastructures et équipements pour encourager les initiatives individuelles, ce qui conduit à un manque de cohérence globale et réduit le niveau d'efficacité des initiatives lancées. En résumé, toutes ces lacunes ont montré qu'il est nécessaire d'avoir un outil de diagnostic complet qui permet aux ES vietnamiens de prendre en considération toutes les dimensions indispensables à la mise en place de leur stratégie de développement de la FEL. Ainsi, une question de recherche s'est posée: existe-t-il un ou des modèles de diagnostic de la stratégie de FEL dans le monde, notamment dans les pays développés, susceptibles d'être intégrés ou adaptés dans le contexte vietnamien? Cette question de recherche nous a conduit à étudier les approches d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur en général et de la FEL en particulier, dans l'optique de concevoir un modèle d'évaluation comparative de la qualité de la FEL adapté au contexte vietnamien. Cet article présente les résultats de notre projet, avec un modèle testé auprès des étudiants de 4 ES participant au projet. Revue de la littérature. À travers le monde, l'amélioration de la qualité passe naturellement par le partage d'expériences entre les ES, et ce depuis l'origine même de l'institution universitaire. C'est sur cette base qu'est née l'approche d'évaluation comparative dans l'enseignement supérieur. Celle-ci vise à comparer les méthodes et les pratiques, en particulier les bonnes, voire meilleures pratiques, dans l'organisation, la gestion et le fonctionnement des ES, tout en permettant de diagnostiquer les problèmes existants ainsi que leurs propres points forts et faibles. Cette approche permet aux ES non seulement de se situer vis-à-vis des standards établis ou de simplement collecter et traiter des données quantitatives, mais aussi de s'inspirer des expériences réussies ailleurs à travers les scénarios réellement mis en place avec succès. Dans le domaine des TIC appliqués à l'éducation, il existe de nombreuses approches et formes de standards ou normes de qualité différentes, allant de la gestion de la qualité basée sur les processus, sur les produits ou sur les compétences, aux normes relatives au contenu, à la technologie et aux méthodes pédagogiques, etc. L'essentiel est que la démarche qualité dans chaque institution respecte trois étapes fondamentales. Sensibilisation des individus à la culture de la qualité. Définition d'une vision et d'une conception commune sur les objectifs et résultats à atteindre, fondée sur la conscience accrue des individus sensibilisés. Traduction de la vision et des objectifs de qualité en processus opérationnel quotidien, en impliquant l'ensemble des détenteurs d'enjeux. Parmi les approches diversifiées dans la gestion de la qualité basée sur les processus, nombreuses portent sur l'étude de cas ou sur l'élaboration de concepts théoriques, de modèles, de facteurs d'évaluation, de standards et d'indicateurs, qui constituent des cadres de référence pour l'évaluation comparative de l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur, communément appelé cyberapprentissage. Bien que ce terme de cyberapprentissage donne aujourd'hui matière à différentes interprétations, il est souvent utilisé comme synonyme d'enseignement et apprentissage en ligne. Cette interprétation se rapproche de la définition proposée par l'auteur présumé du concept en 1998, Bjiks. Le cyberapprentissage est l'apprentissage à l'ère d'Internet, un point de convergence entre l'apprentissage et le réseau. Ce terme est aussi considéré comme le plus répandu parmi ceux associés à la modalité de l'enseignement à distance. Et parmi de nombreuses initiatives visant à évaluer le cyberapprentissage, ce sont celles qui émanent des projets européens dans les années 2000 et 2010 qui se démarquent, dont celui intitulé Excellence plus coordonné par l'Association européenne des universités à distance. Il s'agit d'un modèle conceptuel d'évaluation de la qualité du cyberapprentissage dans une perspective complexe et globale, centrée sur l'étudiant et structurée autour de trois dimensions principales, services, gestion et produits. Comprenant sept groupes de critères, personnalisation, flexibilité, accessibilité, transparence, interaction, participation et productivité, résumé dans la figure 1. Figure 1. Modèle conceptuel de la qualité du cyberapprentissage dans une perspective complexe et globale. Source, Ossia Nilsson et Langrand. Il existe depuis 2012 une version 2 de ce modèle appelée Excellence de l'EADTU, qui intègre les progrès technologiques dans la mise à jour de son standard d'évaluation comparative, notamment avec l'introduction des ressources éducatives libres. La version 3, quant à elle, intègre les cours en ligne ouverts à tous. Actuellement, le cadre de référence Excellence comporte un outil de diagnostic rapide QuickScan qui comprend 35 critères d'évaluation comparative dans 6 domaines, gestion stratégique, conception de curriculum, conception de cours, enseignement, soutien au personnel et soutien aux étudiants. Chaque établissement peut sélectionner les critères appropriés en fonction des publics cibles et des objectifs spécifiques de chaque évaluation. En ce qui concerne les publics cibles, il s'agit en général d'une faiblesse des initiatives d'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur. Car on constate souvent que certains acteurs clés parmi les détenteurs d'enjeux à des étapes où ils sont pourtant directement concernés n'y participent pas. Pour un établissement ou programme universitaire, chaque détenteur d'enjeux a des attentes spécifiques vis-à-vis des résultats de l'évaluation de la qualité, dans le cas des étudiants. Il s'agit des retours d'expérience des promotions précédentes ou de leur propre satisfaction à l'égard de l'expérience d'apprentissage vécue. La prise en compte de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants est une nécessité dans la démarche qualité de l'enseignement supérieur, comme l'ont montré de nombreuses recherches au fil des décennies. Et elle sera d'autant plus facilitée par l'utilisation accrue des outils informatiques et d'Internet. À ce jour, la plupart des outils d'enquête qui permettent d'obtenir l'avis des étudiants se concentrent sur l'évaluation de l'enseignement, soit des programmes ou des cours. L'un des premiers modèles reconnus est le questionnaire Student Evaluation of Educational Quality, utilisé à l'Université de Californie, à SNIS à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le Course Experience Questionnaire, développé en Australie à la fin des années 1980 pour évaluer la qualité des formations universitaires du point de vue des diplômés, est un autre exemple. En s'inspirant du SEC, Entwistle et ses collaborateurs ont élaboré le Experience of Teaching Learning Questionnaire au Royaume-Uni, dans le cadre d'une collaboration entre les universités d'Édimbourg, de Dme et de Coventry, avec pour cible les étudiants en cours d'études. Au Canada, l'Université du Québec à Rimouski a également adapté le CEC à son propre contexte entre 2007 et 2011. Si les modèles CEC, CQETLQ se concentre principalement sur les interactions entre les enseignants et les étudiants à l'échelle des cours. Jean et ses collaborateurs à l'Université de Sydney ont adapté le SEC en Stud Course Experience Questionnaire pour mesurer la qualité de l'ensemble des programmes universitaires, selon le point de vue des étudiants inscrits. Ils ont aussi fait évoluer le modèle en créant le Learning Experience Questionnaire, pour évaluer l'apport des technologies de l'information et de la communication dans la formation universitaire, notamment dans la modalité de formation hybride venant en appui des activités pédagogiques en présentiel. Plus précisément, l'ELEC comporte 18 questions couvrant 4 dimensions de l'intégration des TIC dans la formation universitaire. 1. Tutorat à distance des enseignants. 2 degrés, ressources pédagogiques en format numérique. 3 degrés, charge du travail à distance. 4 degrés, interaction entre les étudiants. Parallèlement, d'autres modèles étudiés portent sur le comportement des utilisateurs vis-à-vis des systèmes et outils technologiques mobilisés dans l'éducation et sur leur adoption de ceux-ci. L'un des plus notables est le Techn Acceptance Model, proposé par Fred D. Davis, que Venkatesh et ses collègues ont ensuite adapté en Inventory of Acceptance and Use of Techn. Concernant l'usage des technologies en classe, le modèle TPCK de Mishra et Kohler, renommé ensuite TPACK, met en évidence les liens complexes entre technologie, pédagogie, contenu et connaissances. Il existe sans doute d'autres modèles que nous ne pouvons pas tous citer, qu'il s'agisse de l'apprentissage en ligne ou de l'EE. Les quelques exemples explicités permettent en revanche de mettre en évidence l'existence d'une variété de modèles susceptibles de répondre aux besoins des ES au Vietnam, qui sont dépourvus actuellement d'un outil de diagnostic et de développement global du cyberapprentissage. Parmi différents modèles susmentionnés, celui des Excellence de l'EADTU apparaît comme le plus adapté car il couvre plusieurs dimensions qui ne sont pas toutes abordées dans d'autres modèles. Cependant, il est nécessaire de mener des études de cas pour déterminer progressivement l'adéquation des outils d'évaluation comparative de l'EADTU à l'environnement spécifique de l'enseignement supérieur vietnamien. En outre, comme plusieurs détenteurs d'enjeux sont impliqués dans les processus variés d'un dispositif de FEL, ces études devraient porter sur des publics cibles particuliers, en priorité sur les étudiants, avec des ajustements adaptés à leurs caractéristiques spécifiques. Méthode de recherche. Pour mener cette étude, nous avons réalisé les étapes suivantes. À partir du référentiel d'évaluation comparative de l'EADTU, nous avons identifié les critères comprenant 2 énoncés distincts pour les dissocier en 2 critères séparés. Chaque critère final comprend un énoncé unique et indépendant des autres critères. Parmi les critères distincts définis à l'étape 1, nous avons sélectionné ceux qui sont pertinents pour l'inclusion dans le questionnaire destiné aux étudiants. Conception du questionnaire d'enquête par Google Form. Réalisation de l'enquête auprès des étudiants inscrits dans 4 ES vietnamiens participant au projet. Collecte, traitement et analyse des résultats d'enquête. À l'étape 1, parmi les 35 critères répartis dans 6 dimensions de l'outil de diagnostic rapide de l'EADTU, nous avons identifié 7 critères de 4 dimensions qui devaient être subdivisés. À l'étape 2, nous avons obtenu un total de 42 critères distincts, dont 26 critères répartis dans 5 dimensions ont été retenus pour le questionnaire final auprès des étudiants. Les résultats de la subdivision et de la sélection des critères sont résumés dans le tableau 1. Tableau 1. Résultats de la subdivision et de la sélection des critères d'évaluation comparative de l'EADTU destinés aux étudiants. Le questionnaire d'enquête en ligne avec la structure des questions est joint en annexe 1 et accessible en entier à l'adresse bit.ly/actuvnstd. Les questions du modèle EADTU utilisent une échelle de Likert à 5 niveaux. 1. Complètement en désaccord. 2. Désaccord. 3. Neutre. 4. D'accord. 5. Complètement d'accord. L'enquête a été soumise aux étudiants de 3e et 4e année, issus de 4 ES participants au projet, Université de Hue, Université des langues étrangères, Université de Da Nang, Université Nguyen Thach Thanh et Université de Canto. Les invitations à participer à l'enquête ont été envoyées aux étudiants via les systèmes de messagerie de chaque ES concerné. L'enquête s'est déroulée d'octobre 2023 à janvier 2024. Les données brutes ont été extraites de Google Form et converties en format Microsoft Excel pour le tri et le traitement préliminaire avant leur importation dans le logiciel SPSS pour les analyses quantitatives. Le processus d'analyse des données quantitatives comprend 4 étapes. Extraire les données statistiques de base pour décrire les caractéristiques de la population étudiée. Réaliser le test de fiabilité alpha de Cronbach pour évaluer la consistance de l'échelle de mesure utilisée dans l'enquête. Généralement, une valeur alpha supérieure ou égale à 0,8 est considérée comme bonne, néanmoins, pour une enquête exploratoire, une valeur alpha de 0,7 est également acceptable. Procéder à l'analyse factorielle exploratoire pour les variables obtenues à l'étape 2, avec les paramètres recommandés par Costello et Osborne, notamment, extraction des facteurs par axes principaux, méthode de rotation Varimax, détermination du nombre de facteurs par eigenvalue, poursuivre l'analyse factorielle confirmatoire à l'aide de modèles d'équations structurelles, en fonction des paramètres recommandés par Klein et des valeurs seuil proposées par Hooper et Hall, un ratio 2DF de 2, 1 à 3, 1. Le comparatif phi index supérieur à 0,95, les indices root mean square error of approximation et standardized root mean square residual inférieur à 0,08. Résultat. Caractéristiques de la population étudiée. Après 3 mois d'enquête, nous avons obtenu un total de 460 réponses valides, avec une répartition de 66,7% d'étudiants en troisième année et 33,3% en quatrième année. Le taux des filles s'élève à 74%. Tandis que celui des garçons est de 25%, 1% ayant préféré ne pas préciser leur genre. La grande majorité des répondants suit des programmes de formation initiale, tandis que seulement 1% sont inscrits au programme de formation continue. La répartition des répondants par domaine scientifique est présentée dans le tableau 2. Tableau 2. Répartition des répondants à l'enquête par domaine scientifique. En ce qui concerne l'expérience vécue de Fell à l'université, la répartition est relativement équilibrée entre les trois groupes, moins de 15 heures, de 15 à 30 heures et plus de 30 heures. Figure 2. Pourcentage de la population étudiée ayant fait l'expérience de la formation en ligne. Test de fiabilité. Les données de l'enquête portant sur ces 460 étudiants de 3e et de 4e année ont été utilisées pour analyser la fiabilité alpha, en référence aux 5 dimensions initiales codées respectivement comme suit. 1. Gestion stratégique, STR. 2. Conception de curriculum, CUR. 3. Conception de cours, CRS. 4. Enseignement, DLV. 5. Soutien aux étudiants, STD. Pour chaque dimension, les items d'enquête sont numérotés de 1 à 3, 4, 5, 6 ou 8, selon le nombre de questions sélectionnées. Les résultats du test de fiabilité sont présentés dans le tableau 3. En général, la structure du questionnaire, composée de 5 dimensions et 26 critères pour les étudiants, s'est avérée d'une grande cohérence avec une fiabilité interne élevée, dont les valeurs alpha allant de 0,887 à 0,966 sont conformes aux attentes d'une analyse factorielle. Tableau 3. Résultat de la fiabilité des dimensions. Résultat de l'analyse factorielle exploratoire. Les données recueillies ont ensuite été utilisées pour une analyse factorielle exploratoire. Après plusieurs essais, nous avons constaté une certaine inconsistance dans les résultats d'analyse, ce qui nous a conduit à éliminer progressivement quelques items susceptibles de générer des perturbations, en particulier les 4 suivants, STR3, DLV5, STD2, et STD6. L'analyse des 22 items restants a permis de valider la répartition de la majorité des items dans leur dimension correspondante. Cependant, 2 items, l'un de la dimension conception de cours et l'autre de soutien aux étudiants, ont été transférés dans la dimension enseignement. Tableau 4. Résultat de l'analyse factorielle exploratoire. Méthode d'extraction, analyse des composantes principales. Méthode de rotation, Varimax avec application de la normalisation de Kezea. À la rotation a été obtenue en 10 itérations 11 résultats de l'analyse factorielle confirmatoire. Les résultats d'analyse factorielle exploratoire sont utilisés à l'étape suivante conformément aux paramètres et indices présentés dans la rubrique méthode de recherche. Les résultats obtenus sont 2 égale à 673,869, DF égale à 199, page égale à 0,000, ratio 2 bar DF égale à 3,386, CFI égale à 0,963, RMSEA égale à 0,072, SRMR égale à 0,0208. Le schéma de modélisation par équation structurelle des données d'enquête obtenues est présenté dans la figure 3. Figure 3. Résultat d'analyse factorielle confirmatoire. Discussion. Population étudiée. Les résultats d'analyse présentés ont montré que l'échantillon choisi est tout à fait conforme aux objectifs de l'étude. Le nombre de réponses valides obtenues indique un ratio de 18, 1 par rapport au nombre d'items du questionnaire, ce qui est nettement supérieur au seuil de 10, 1 recommandé par Costello et Osborne. En ce qui concerne la répartition des domaines scientifiques, la représentation totale des étudiants en sciences de l'éducation et formation des enseignants et en sciences humaines, sociales, langues étrangères et services est de 64,4%. Celle des domaines sciences naturelles, techniques et ingénierie, mathématiques et statistiques, et informatique et technologie de l'information de 11,9%, et finalement celle de sciences de la santé de 23%. Au total, le taux des filles est 3 fois plus élevé que celui des garçons. Ces chiffres correspondent aux autres études dans le monde sur les orientations et les aspirations professionnelles des jeunes dans l'enseignement supérieur. En Europe, environ 65% des étudiants inscrits dans les domaines de sciences sociales, journalisme et information ou arts et humanités sont féminins, voire plus de 72% en médecine et santé et plus de 79% en éducation. Au Vietnam, malgré l'absence des statistiques officielles actualisées, des études de la Banque mondiale sur l'enseignement supérieur vietnamien des années 2002-2005 ont également indiqué un taux d'étudiantes inscrites dans les domaines de sciences sociales et de l'éducation d'environ 70%. Ou plus récemment, les statistiques du MEF en 2018 montraient que le taux des filles dans les domaines de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ne représentait qu'environ 34%. Quant à l'expérience de la FEL, les répondants, dont approximativement les deux tiers étaient en troisième année et un tiers en quatrième année, sont répartis en trois groupes relativement équilibrés, moins de 15 heures, de 15 à 30 heures, et plus de 30 heures d'apprentissage. Les apprentissages ont pu avoir lieu principalement durant les périodes de continuité pédagogique lors de la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021. Après cette crise mondiale, les 4 ES vietnamiens participant au projet ont établi leur réglementation interne pour réguler les activités de FEL dans tous les programmes de formation réguliers, mais qui servent principalement à les encourager sans les exiger obligatoirement. Il existe peu d'études publiées sur le volume horaire des activités d'apprentissage en ligne des étudiants vietnamiens, tant durant la pandémie de COVID-19 qu'à la suite de celle-ci. Mais une enquête menée auprès de 1139 étudiants d'une université basée à Ho Chi Minh Ville a montré qu'entre mars et mai 2020, le taux des étudiants participant à la FEL par vidéoconférence est d'environ 31% pour 1 à 2 cours, 37% pour 3, 4 cours et 32% pour plus de 5 cours. Cette mise en perspective permet ainsi de confirmer que les caractéristiques principales de la population étudiée, telles que la répartition des domaines scientifiques, le taux des garçons-filles, l'ancienneté et l'expérience de la FEL répondent tout à fait aux objectifs de recherche fixés. Cela permet de justifier la pertinence des résultats d'enquête obtenus et la poursuite des analyses de ces résultats sur le plan quantitatif. 14 structures du modèle de ADTU vis-à-vis de la perception des étudiants vietnamiens. Le résultat du test de fiabilité alpha a montré que le questionnaire d'enquête sur le modèle de ADTU soumis aux étudiants vietnamiens indique une validité interne élevée. Et pourtant, plusieurs valeurs d'alpha dépassent le seuil de 0,90, ce qui correspond aux recommandations de Tavakol et Denik au fait de rechercher des améliorations possibles, car il existe probablement des questions répétitives, ou dont la formulation est trop longue. Ces perturbations sont constatées plus nettement pour les 4 items STR3, DLV5, STD2 et STD6 qui ont été finalement exclus du modèle. Quant à chaque facteur analysé, la dimension gestion stratégique comprend 2 items retenus qui sont les politiques de cyberapprentissage sont conformes au cadre juridique et éthique et la politique de l'établissement garantit que les systèmes d'apprentissage en ligne sont compatibles avec les systèmes d'information de gestion connexes et qu'ils sont fiables, sûrs et efficaces. En particulier, les aspects d'éthique et de cadre juridique font partie des composantes importantes dans les modèles de compétences numériques des apprenants aujourd'hui, ce qui explique la pertinence, selon eux, d'avoir intégré l'item STR1 à la dimension stratégique. En ce qui concerne l'item STR2, une autre étude réalisée auprès de 453 étudiants de 5 programmes de formation universitaire vietnamiens en 2015 a montré que les systèmes d'information et d'assistance pédagogique institutionnelle jouent un rôle complémentaire aux autres systèmes ou outils de travail individuels des étudiants et enseignants, ce qui permet de déterminer la satisfaction des étudiants dans les cours ayant recours au TIC. Par ailleurs, la dimension conception de curriculum comprend 4 items qui sont tous adaptés au contexte de l'enseignement supérieur vietnamien. Il s'agit d'une différence notable entre le modèle de ADTU et les autres modèles évoqués dans la revue de la littérature. En effet, la structure et le contenu des programmes de formation sont des critères importants dans l'évaluation de la qualité des programmes de formation universitaire au Vietnam, largement inspiré du référentiel de l'ASEAN Inst Network Quality Assurance. De la même façon, le standard d'évaluation de la qualité des programmes de formation à distance, promulgué par la circulaire 39-2020, comporte aussi une dimension sur le descriptif, la structure, le contenu du programme de formation. Une analyse plus approfondie permet de constater que la dimension conception de cours est constituée de 7 critères concernant les buts et objectifs de formation, le gabarit commun pour tous les cours, les ressources et activités pédagogiques et l'évaluation des apprentissages. Tous ces critères ont été validés d'après l'enquête réalisée auprès de 460 étudiants. En comparaison avec les standards d'évaluation de la qualité des programmes de formation universitaire au Vietnam, y compris en ce qui a trait aux formations à distance, le nombre et la formulation de ces critères sont relativement clairs et concis. En dehors du Vietnam, le standard de l'ONQA comprend trois dimensions avec au total 18 critères concernant les buts et objectifs de la formation, la stratégie pédagogique et l'évaluation. La raison est simple, le standard vietnamien régulé par la circulaire 04-2016 a été conçu à partir de la version 3.0 du standard ONQA. Il existe aussi un standard des cours en ligne, Quality Mate, qui comprend quatre dimensions avec au total 19 critères relatifs aux objectifs d'apprentissage, ressources et activités pédagogiques, et évaluation des apprentissages. Il est certes utile d'avoir des dispositions spécifiques finement définies pour bien réguler la qualité des cours en ligne. En revanche, par rapport aux besoins d'un modèle global de développement du cyberapprentissage pour un ES, se limiter à sept critères concis dans une dimension liée à l'aspect conception de cours semble être un choix pertinent. Ce qui a été validé par l'enquête réelle réalisée auprès des étudiants des 4 ES vietnamiens participant au projet. Il est à noter aussi que les ressources éducatives libres, sujet d'actualité ces dernières années et intégrées dans le modèle de ADTU à partir de la version 2, possèdent leurs propres critères. En ce qui concerne la dimension enseignement, 4 des 5 items initiaux ont été validés à travers l'enquête auprès des étudiants des 4 ES vietnamiens participant au projet. Parmi ces items, deux critères relatifs à la sécurité du système technique de FEL et les ressources d'information et guides d'utilisation des outils sont également abordés dans les standards existants, comme la circulaire 3.9.2020 ou Quality Mate. Cependant, deux critères, DLV1, les spécifications techniques du système de cyberapprentissage sont basées sur les exigences des parties prenantes et impliquent des estimations réalistes de l'utilisation et du développement du système et DLV3. Les systèmes de cyberapprentissage offrent un choix d'outils en ligne adaptés au modèle éducatif adopté et aux besoins des étudiants et des éducateurs, apportent une véritable nouveauté, jamais abordée dans les hauts standards susmentionnés. Quant à l'item DLV5, les documents institutionnels et les informations accessibles par l'intermédiaire de l'ENA, environnement numérique d'apprentissage, sont régulièrement contrôlés, révisés et mis à jour. Le fait qu'il est exclu du modèle d'étude pose la question de la pertinence de ce contenu dans l'enquête menée auprès des étudiants. Le résultat de notre étude indique que cet item n'est pas pertinent, mais d'autres études complémentaires seront nécessaires pour apporter davantage d'éclairage à cet effet. De même, deux items venant d'autres dimensions ont été intégrés à notre étude. STD1, les étudiants reçoivent des informations claires et actualisées sur leurs cours, y compris sur les méthodes d'apprentissage et d'évaluation, et CRS8. Des mesures appropriées sont en place pour empêcher l'usurpation d'identité ou le plagiat, en particulier lorsque les évaluations sont effectuées en ligne. Dans ce cas, il est compréhensible que, pour les étudiants, les informations sur les cours et les mesures de prévention des fraudes en ligne appartiennent à la dimension enseignement. La transposition de ces deux critères ne change pas la nature du sujet abordé dans les formulations concernées. Dans le cadre limité de ce projet, nous pouvons accepter ce résultat, mais davantage d'études seront nécessaires dans le futur pour y apporter des connaissances complémentaires. Enfin, pour la dimension soutien aux étudiants, outre l'item susmentionné STD1, trois autres items sont tous retenus dans le modèle d'études, STD3, STD4 et STD5. Deux de ces trois critères, STD3 et STD5, sont également présents dans les standards existants, et le dernier, STD4, représente la nouveauté du modèle de ADTU. Ce point est évidemment crucial, car l'aspect social a été reconnu comme un facteur indispensable dans les apprentissages en ligne, qui influençait la satisfaction, la motivation, l'assiduité et la perspective de réussite des étudiants. De plus, il a été démontré qu'un dispositif d'apprentissage en ligne peut aujourd'hui tout à fait reposer sur les relations sociales dans la communauté d'apprentissage en ligne, ce qui permet de suggérer les cours plus pertinents par rapport aux besoins et aux préférences individuelles des étudiants. Et à l'ère de l'explosion des applications de réseaux sociaux, la migration des interactions de la communauté d'apprentissage en ligne dans les ENA ou les Learning Management Systems institutionnels vers les plateformes de médias sociaux publics, plus fonctionnelles et confortables, devient une tendance inévitable. En résumé, pour l'ensemble des dimensions, le résultat de l'analyse factorielle confirmatoire et de modélisation par équation structurelle montre que le modèle d'évaluation comparative du cyberapprentissage de ADTU vise de la perception des étudiants est bien valide dans le contexte vietnamien, avec certaines adaptations telles que présentées dans l'annexe 2. Les paramètres et indices principaux se trouvent dans les seuils de valeurs acceptables. À conclusion et perspective. L'objectif de cette étude est de construire un modèle international d'évaluation comparative du cyberapprentissage vis-à-vis de la perception des étudiants, adapté au contexte de l'enseignement supérieur vietnamien. Ce modèle constituera un outil permettant aux ES vietnamiens de développer leur stratégie d'apprentissage en ligne de manière cohérente et globale. Les résultats d'analyse des données d'enquête auprès de 460 étudiants en 3e et 4e année de 4 ES participant au projet ont montré que le modèle de ADTU, avec certaines adaptations présentées dans l'annexe 2, est tout à fait pertinent. Cette validation permettra aux ES vietnamiens d'utiliser ce questionnaire d'enquête pour mesurer le niveau de satisfaction de leurs utilisateurs principaux vis-à-vis des dispositifs de formation en ligne qu'ils mettent en place. L'analyse multidimensionnelle de ces résultats d'enquête permettra aux ES vietnamiens de consolider leur plan stratégique de développement de l'apprentissage en ligne, en ajustant les aspects qui nécessitent des améliorations en fonction des commentaires des étudiants. Ce modèle initial pourra être source d'inspiration pour développer d'autres modèles plus spécifiquement adaptés aux autres groupes de publics ciblés de détenteurs d'enjeux, en particulier les enseignants, chercheurs et le personnel des services de soutien. Sur la base de ce cadrage général, certains sous-critères spécifiques ou indicateurs pourront être raffinés dans les processus quotidiens afin de bien articuler les mesures cohérentes à différents niveaux d'action, dans l'ensemble des programmes de formation et des cours dispensés. Cependant, notre étude comporte certaines limites telles qu'explicitées dans les discussions concernées. Premièrement, il existe dans les critères du référentiel de ADTU de nombreuses formulations longues et complexes qui, malgré le niveau de précision des détails, risquent de réduire la qualité des questionnaires d'enquête. Cette complexité impacte considérablement la cohérence des résultats obtenus et la validité des construits. Les questions devront ainsi être réécrites pour faire en sorte qu'elles soient plus courtes et plus succinctes. Deuxièmement, l'exclusion des items STR3, DLV5, STD2 et STD6 du modèle initial ainsi que le transfert des items CRS8 et STD1 au groupe DLV mériteront des études plus approfondies pour confirmer ou infirmer notre modèle obtenu. Troisièmement, il sera souhaitable d'élargir l'éventail des étudiants bien au-delà des 3e et 4e années, et ce dans plusieurs autres domaines de formation. Remerciements. Les auteurs adressent leurs remerciements sincères au ministère de l'Éducation et de la Formation vietnamien, qui a octroyé un soutien financier au projet de recherche scientifique et technologique de niveau ministériel en 2022 formation en ligne de niveau universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur vietnamien. État des lieux et solutions, porté par l'Université de Hanoï. Les informations présentées dans cet article représentent uniquement le point de vue des auteurs. Auteur Thanh Ba Wan, PhD, directeur du Centre des technologies de l'information et de la formation en ligne, Université de Hanoï, Vietnam. Il a obtenu son doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur le learning et l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur. Nguyen Tandai, chercheur associé, Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication, Université de Strasbourg, France. Il a réalisé sa thèse en sciences de l'éducation au LISEC et l'a soutenue avec succès en avril 2017. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'éthochonologie éducative et l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Nguyen H. Ubin, PhD, enseignant-chercheur à l'Université de langue étrangère, Université de Da Nang, Vinham. Il a obtenu son doctorat en langue et littérature à l'Université de Liège, Belgique. Ses recherches portent sur la linguistique appliquée et l'application des technologies de l'information à l'enseignement. Ngo Baun, enseignant-chercheur à l'Université de Canto, Vietnam. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, avec une expertise particulière en réseaux informatiques, cloud computing, systèmes répartis et big data. Il développe également des solutions de transformation numérique dans les domaines de l'éducation et de l'administration électronique, et se spécialise dans la pratique et la formation à l'enseignement en ligne. Vo Viet Minh Na, professeur associé à l'Université de Hue, Vietnam. Il a obtenu son doctorat en informatique cognitive à l'Université du Québec à Montréal, Canada, en 2007. Ses recherches portent sur les réseaux de commutation optique par paquet-boucle, les systèmes mobiles d'identification par radiofréquence et les capteurs, l'informatique douce, les réseaux neuronaux, l'informatique évolutive et les technologies de l'éducation. Nguyen Thien Dao, département de l'assurance qualité, Université Nguyen Thach Thanh, Vietnam. Elle a obtenu un master en évaluation et mesure de l'éducation à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Ses recherches portent sur l'assurance qualité et le développement durable dans l'éducation. Dinh Thi Hai, département de gestion scientifique, Université de Hanoï, Vietnam. Elle a obtenu son master à l'Université Rey Juan Carlos, en Espagne, en 2012. Ses recherches portent sur la méthodologie de l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère. Vutienda, Centre des technologies de l'information et de la formation en ligne, Université de Hanoï, Vietnam. Il est titulaire d'un master en formation des enseignants de mathématiques de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Ses recherches portent sur la méthodologie de l'enseignement, l'apprentissage en ligne et les technologies éducatives. Ceci conclut l'article. Le texte intégral est disponible sur le site web de la Revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie, www.cjlt.ca.